14 décembre 2018. Bienvenue, c'est Hélène Denis qui est avec vous à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du vendredi, donc jusqu'à 11h30. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Oh, je vais très bien. Ma console, on dirait la grippe, mais moi, je vais très bien.
Ah oui, il y a eu des petits pépins techniques.
Des problèmes de communication.
Les cheveux de la NASA.
Voilà, la communication est très importante.
Oui, est-ce que vous suivez ça, l'épopée de David Saint-Jean? Oui?
Oui, ben oui.
Ça vous intéresse, ça vous passionne? Ah oui, est-ce que vous auriez aimé être un astronaute?
Si j'avais eu la tête, probablement pour, mais
la tête,
ben, ça prend une bonne tête pour être astronaute.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, il faut avoir
pour que le casque entre bien?
Voilà.
C'est exactement non. Ce que je voulais dire. Mettons que vos forces en chimie, physique, astrophysique,
ingénierie,
c'était pas votre tasse de thé, non? Vous, c'est plus quoi? Les sciences humaines, le théâtre, les communications?
Si on parlerait de moi, je me serais fait une petite feuille.
Mathieu est tellement discret.
Ben oui, ben c'est pour ça que je suis du bord de la console et non pas devant le micro.
Oui, mais vous aimez parler quand même.
Oui, quand on met le micro, des fois ça arrive.
Alors, on n'en saura pas plus pour ce matin, mais du côté des éphémérides, vous avez plein de choses à nous dire.
Il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais je vais commencer tout de même. En 1902, à Québec, un incendie détruit l'hôtel Victoria, un 14 décembre. En 1918, New King Frédéric renonce au trône de Finlande après seulement 2 mois. L'Union soviétique est chassée de la Société des Nations en 1939. En 1940, en France, les grandes mines de charbon sont nationalisées. En 1955, le Conseil de sécurité des Nations unies s'agrandit, admission de nouveaux membres, dont l'Albanie, la Jordanie, l'Irlande, le Portugal, la Hongrie, l'Italie, l'Autriche, la Roumanie, quand je disais qu'elle s'agrandit, elle s'agrandit et ça continue, la Bulgarie, la Finlande, le Sri Lanka, le Népal, la Libye, le Cambodge, le Laos et l'Espagne. En 1957, toujours un 14 décembre, l'aéroport de l'ancienne Lorette, près de Québec, est inauguré. En 1960, la collision entre un DC-8 et un Constellation au-dessus de New York fait 136 morts. 1960, toujours, signature de la Convention de création de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Élu dans Jacques Cartier lors d'une partielle, Claire Kirkland Casgrain est la première femme députée à Québec en 1961. La sonde américaine Mariner 2 prend la première photo en gros plan de la planète Vénus. C'était en 1962 et ça continue. 1998. Je pense que j'ai faim. Le ministre des Finances, Paul Martin, annonce le refus de 2 fusions, celle de la Banque nationale avec la Banque de Montréal et celle de la CIBC avec la Banque TD. En 2008, 8 ans et 1 jour après son élection au titre de président des États-Unis, George W. Bush, en pleine conférence de presse à Bagdad, échappe de justesse à un jet de chaussures de la part d'un journaliste irakien furieux des propos du président américain sur la guerre d'Irak. Et pour ce qui est des naissances, Jane Austen, qui est née en 1775, et qui est décédée en 1817, et Nostradamus, né en 1503, 14 décembre. On se souvient qu'il était médecin, apothicaire et astrologue. Paraît-il qu'il avait une très bonne recette de confiture à la fraise.
Pour vrai?
Ben oui, en fait, oui, voilà.
Curieuse de voir cette recette-là.
Ben, c'est pas très compliqué, je pense, faire une confiture.
Des fraises, du sucre et brassé.
Voilà, et du thym.
Ouais. Et des pots.
Et des pots, bien sûr. Et pour ce qui est des décès du 14 décembre, le poète québécois Gaston Miron, qui était né en 1928, est décédé en 96.
Il aurait donc 90 ans s'il avait été toujours en vie.
Camille Saint-Saëns est décédé en 1921. Et George Washington, le premier président des États-Unis, qui était né en 1732, est décédé en 1799. Voilà pour aujourd'hui.
Et j'ajoute une date d'anniversaire. Oui. Une auditrice très, très fidèle. Mais en ce moment, je ne sais pas si elle nous écoute parce que c'est sa journée d'anniversaire et on la sort pour déjeuner. Il s'agit de Françoise Diotte-Denis, ma mère.
Oh,
bonne
ben,
fête, Françoise. En une de la presse, la nouvelle tête de Béatrice atteinte d'une forme extrême d'hydrocéphalie, la petite Béatrice peut espérer des jours meilleurs grâce à deux chirurgiens montréalais récits. Pause chic, ça va intéresser Mathieu qui s'intéresse à David Saint-Jacques. Mission de David Saint-Jacques, des bijoux d'ici, dans l'espace. Et Canadien détenu en Chine, à quoi joue Pékin? Depuis sa naissance, Béatrice est clouée au lit. Sa tête lourde et disproportionnée l'empêche de s'asseoir. Ses parents ont immigré ici quand la petite avait 9 mois. Deux chirurgiens du CHU Sainte-Justine viennent de leur redonner espoir, l'espoir que l'enfant atteinte d'une forme extrême d'hydrocéphalie ait une vie plus normale. Alors, c'est un long, long dossier que je vous ai préparé. En fait, j'ai préparé le résumé. Et ça commence ainsi, je parle de mon résumé. Originaire d'un pays du Maghreb qui nous ont demandé de ne pas nommer, les parents viennent à peine d'immigrer au Québec. Leur bébé n'a pas encore de carte d'assurance maladie. Une hydrocéphalie qui cause une macrocranie, ce n'est pas exceptionnel. On en voit régulièrement, mais une hydrocéphalie qui n'est pas traitée et qui cause une macrocranie aussi extrême, on ne voit pas ça au Canada, explique le docteur Alexander Vail, neurochirurgien au CHU Sainte-Justine. Si la petite était née ici, elle n'aurait pas été dans la même situation. On l'aurait traitée peu de temps après la naissance et quand c'est traité tôt, la boîte crânienne reprend une taille normale. Les seuls cas aussi extrêmes que le docteur Vail a vus dans sa carrière, c'est en Haïti, où il se rend 2 fois par an pour faire de la médecine humanitaire. C'est un problème qu'on voit dans des pays aux ressources limitées, où les gens n'ont pas accès à des médecins spécialistes, dit-il. L'hydrocéphalie consiste en un excès de liquide céphalorachidien dans les cavités du cerveau qui résulte soit d'un blocage de la circulation de ce liquide, soit d'une défaillance de la réabsorption du liquide. Sans traitement, des lésions cérébrales peuvent causer un retard de développement neurologique et même entraîner la mort. Et un peu plus loin, ainsi le 8 juin 2017, le docteur Vail opère le bébé une première fois. Et après une première opération qui ne change rien à la taille du crâne de la petite Béatrice, c'est un prénom fictif, le docteur Vail décide de la recommander à son confrère, le docteur Daniel Borsuk, chef du service de chirurgie plastique du CHU Sainte-Justine, qui partage son temps entre l'établissement pédiatrique et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où il a réalisé cette année la première greffe de visage au Canada. L'opération. Alors, les docteurs Daniel Borsuk et Alexander Vail n'ont rien laissé au hasard. 2 semaines plus tôt, ils ont réalisé une intervention virtuelle pour se préparer à celle qui se déroulera aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 5 novembre dans l'histoire parce que la petite s'est faite opérer le 5 novembre. La chirurgie virtuelle est aussi importante que la chirurgie réelle. Elle nous sert à minimiser les risques et à optimiser les résultats, dit le docteur Borsuk, chirurgien plastique. Avec l'aide des ingénieurs américains, ils sont 2 et ils viennent du Michigan. Donc, ils ont eu l'idée de modéliser la boîte crânienne de la petite en marquant les sections du crâne avec des lettres de l'alphabet. Ces lettres et leur position exacte sur les sections du crâne deviendront la clé ensuite pour remettre les morceaux en place à la manière d'un casse-tête. Durant cette opération virtuelle, les médecins ont déterminé quel pourcentage du crâne ils pouvaient enlever sans endommager des veines importantes situées à la base du crâne. On gagne beaucoup de temps opératoire en prenant toutes les décisions critiques à l'avance, souligne le docteur Borsuk. Béatrice a été opérée donc le 5 novembre, comme je vous le disais un peu plus tôt. Et donc, 12 heures, ça a pris 12 heures cette opération. 12 heures donc après le début de l'opération, le docteur Weil va retrouver les parents dans la salle d'attente. Tout s'est bien déroulé, leur assure-t-il. Les parents poussent un énorme soupir de soulagement. C'est un miracle pour notre petite fille, dit la mère, impressionnée par le travail des deux chirurgiens. Alors, ça donne de l'espoir. Et depuis une semaine, Béatrice est de retour à la maison après une hospitalisation d'un mois. La petite accuse un grand retard de développement puisque la pression du liquide céphalo-rachidien a empêché son cerveau de se développer. Cela étant dit, le plus récent scan montre que, déjà, son cerveau a grossi depuis l'opération. L'opération va optimiser son développement neurologique. Est-ce qu'il sera normal? Probablement pas, mais je crois qu'on l'a aidé à atteindre le plus de potentiel possible, dit le docteur Alexandre Weil, neurochirurgien. Il y a un nouvel inspecteur général en ville, une inspectrice pour être précis. Montréal s'apprêtant à confirmer Maître Brigitte Bishop à la tête du BIG jusqu'en 2023. Maître Bishop assurait l'intérim au bureau de l'inspecteur général depuis le départ de Maître Denis Galland en juillet 2018. En septembre, Montréal a entrepris un processus pour pourvoir le poste, mettant en place un comité de 3 élus et une conseillère en acquisition de talents et dotations. Après avoir rencontré Maître Bishop, ils ont recommandé sa nomination. L'administration Plante a accepté la recommandation, mais le conseil municipal devra lui aussi voter sur sa nomination lundi. Apple a annoncé hier des investissements dans plusieurs sites aux États-Unis, dont la création d'un nouveau campus pour 1 milliard de dollars à Austin, au Texas. Ce nouveau site devrait héberger initialement 5 000 employés avec la possibilité d'augmenter ce chiffre à 15 000 selon la société californienne. Apple s'est dite en bonne voie pour créer d'ici 2023 quelque 20 000 emplois aux États-Unis, où elle compte actuellement 90 000 employés. La firme de Cupertino dans la Silicon Valley devrait aussi investir dans de nouveaux sites sur la côte ouest américaine à Seattle, San Diego et dans la banlieue de Los Angeles. Les centres de données d'Apple aux États-Unis se verront en outre consacrer 10 milliards de dollars sur les 5 prochaines années.
Et c'est vintage jealous.
Moi je suis vintage jealous.
Si t'es vintage jealous,
de jouer à Mario Bros.
Et c'est vintage jealous.
On est vintage jealous.
Dans le bon vieux temps, ça se passait de
même. Vintage jealous, c'est pas trop précis. C'est Jean Bobino, les 100 watts de Gracie. Les années disco, Sico Sico Percy. Steinberg, Chris Guy, c'est un état d'esprit. Space Z, back avec une carte de base dans ta roue. C'était Twinking des Willy, pis de la race dans ta rue. T'étais dans la gang des tics, pis dans la gang des BMX. T'avais tes shots de Maiden, tu lisais Astérix. Le nom de tes chums, c'était Mélanie ou Ben Rick. Le dernier gadget à mode, c'est un cube Rubik. Quand ça fumait dans les écoles, quand t'avais pas de nip. Quand t'allais opérer, pogner des mini-zips. Si t'avais un support, sa TV comme antenne. Tu recevais 12 cassettes par la poste pour une scène. Y'avait les Nordiques, pis y'avait les expos. Y'avait la O'Keefe, pis l'amour c'est une expo. T'attends d'après décembre pour signer cadeau. Quand y'avait un pit de sable à la place des condos. Le Big Will, le Gérard, le Sprint, le Pac-Man. Gilligan, le Walkman, la vieille série Batman. Si ta mère t'envoie à l'école, si tu passes partout. Faisais ton craft dinner devant Fred Caillou. Ça te coûtait 25 cents quand tu prenais le boss. Ça confirme que tout et tout, t'es vintage jealous.
Et t'es vintage jealous.
Moi, je suis vintage jealous.
Si t'es vintage jealous,
de jouer à Mario Bros.
Et t'es vintage jealous.
On est vintage jealous.
Suis toi avec si tu te fais pour changer de boss. Et t'es vintage jealous.
Moi, je suis vintage jealous.
Si t'es vintage jealous,
tu te souviens d'Eric Lindros.
Et t'es vintage jealous.
Lui, il est vintage jealous.
Parce qu'il a porté des cheese à l'envers dans ta crisscross.
Jealous, tu vas te souvenir aussi de la STCUM, Berry de Montigny. Mais si t'en souviens pas, t'es vintage et tout. T'as connu avant la Valterminus dans Ribou. Pour toi, c'est le Villéonard, c'est Traboulidon. T'avais un siège banane, des francs sur ton guidon. Capote à caca de cap, annoncez qui débrouille. T'aimais pas la tarte au citron, mais t'aimais pop citrouille. TVA le Canadien, c'était les métropoles. T'arrimènes dans une paix à BO, pas l'épaule. Assis dans le salon, tu m'as posé près, tu t'es dose. La poutine dans ce temps-là, c'était rien qu'une frite sauce. Si t'as déjà voté à des référendums. Les meufs de la coupe cette année, c'est Saint-Gat au forum. Par belle montagne des hommes, l'aquapark Fleuralie. Le zoo du parc La Fontaine, village de Nathalie. Si tu soupais de verre, Michel Louvain. Que t'allais te coucher à verre, Michel Jasmin. Pis qu'avec ton big wheel, tu jumpes à d'un boss. Ça prouve que toi et tout, t'es vintage jealous.
Et t'es vintage jealous.
Moi j'suis vintage jealous.
Si t'es vintage jealous,
de jouer à Mario Bros.
Et t'es vintage jealous.
On est vintage jealous.
Suis toi avec si tu te fais pour changer de boss. Et t'es vintage jealous.
Moi j'suis vintage jealous.
Si t'es vintage jealous,
tu te souviens d'Eric Lindros.
Et t'es vintage jealous.
Lui est vintage jealous.
Parce qu'il a porté des cheese à l'envers dans ta crisscross.
Vieux temps, ça se passe.
C'était payer des frais de retard au club vidéo. Que finalement, ça te coûte le double pour checker Rambo. Ici, en plus, t'avais oublié de le rembobiner. Quand tu regardes ça aujourd'hui, t'es bien content de streamer. T'as connu MSN, puis le téléphone à cadran, les floppy disks, les Betamax, puis super écrase. Pour toi, l'épisode 4, ça a toujours été le premier. Ça prouve que t'es vintage, ça sert à rien de le nier. Si t'allais chez Direct Film pour développer tes photos, puis que le dernier des Rockies, c'était celui qu'on drague. Si t'appelles en console, puis que c'est rendu Gatineau. T'es un génie en herbe, là, de morceaux de. Bon, t'as connu l'avant TPS, tu perdais pas sans GPS. T'avais ton carnet d'adresse, puis tu payais en espèces. Dans ce temps-là, secondaire, c'était les exported lights. On n'avait pas d'iPad, mais on avait des light bright. Ça se passait dans le parc ou bien dans la ruelle. De voir sans arrêt jusqu'à que ta main t'appelle. Aujourd'hui, c'est différent, les jeunes, c'est rare qu'ils sortent. Puis c'est là que tu te rends compte que t'es vintage jealous.
Et t'es vintage jealous.
Est-ce que vous avez deviné le titre de cette chanson vintage jealous? C'était Seba et Org.
Excellente c'est chanson. Bon. Hein. Et ils n'ont rien oublié
non.
Dans toute la nomenclature. Vous, vous êtes senti interpellé, Mathieu.
Oh oui, complètement.
Et
complètement.
Moi aussi. L'époque où on se levait pour aller changer le poste. C'est tellement rigolo. Bien fait. Alors, ça fait du bien cette chanson en ce vendredi. En une du Devoir politique, le gouvernement Jean-Jacques Bertrand a aboli le Sénat québécois il y a 50 ans. Agression sexuelle, il faudrait revoir le code criminel, croit le directeur du SPVM. Partir, revenir, l'acteur Yves-Jacques enfile les rôles ici et à l'étranger, petits et grands, avec le même bonheur. Et il parle entre autres de Un homme pressé, film de Hervé Mimran, qui sera en salle le 21 décembre. Et j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Yves-Jacques, qui sera donc parmi nous. La semaine prochaine, à mon émission Le quotidien des quotidiens, ce sera le 20 décembre. Aussi international, le suspect de l'attentat de Strasbourg est abattu par les forces de l'ordre. Sortie culturelle des écoliers, le désastre annoncé est évité. Et kitsch et conseil al dente chez Da Enrico, c'est la chronique de José Blanchette. Au lendemain du dépôt d'accusation contre Gilbert Rozon, le nouveau directeur du service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, croit que le temps est venu de revoir le code criminel afin de faciliter les procédures pour les victimes alléguées. Clairement, chaque fois qu'il arrive une crise, ça amène des modifications quelque part. Je pense que le législateur doit se poser des questions sur l'approche en matière d'agression sexuelle, a-t-il expliqué au Devoir jeudi, au lendemain de son assermentation comme directeur du SPVM. Que faire pour rendre moins laborieux le processus de plainte pour les présumées victimes d'agressions sexuelles? Sylvain Caron demeure prudent. « Je ne suis pas juriste », tient-il à préciser. Le nouveau chef de police évoque le fardeau de la preuve et les exigences en matière de corroboration qu'il faudrait peut-être revoir, suggère-t-il. Alléger la preuve requise pour les plaignants et plaignantes? Non, plutôt faire ça différemment, répond-il. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre excès non plus. Il y a la Charte des droits. Ce sont des modifications qui vont demander des réflexions. Le premier ministre François Legault a lui aussi reconnu jeudi être inquiet de la perception du système de justice qu'ont certaines victimes de crimes sexuels. Il s'est dit ouvert aux propositions de la députée péquiste Véronique Yvon qui suggère la création d'un comité de travail sur le traitement des plaintes de crimes sexuels, ainsi que l'implantation d'un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et conjugales. Si on est capable d'aider les victimes à ce que ça soit plus facile de dénoncer, moi, je suis pour ça, a assuré le premier ministre, se disant prêt à travailler sans partisanerie sur cette question. Il n'est toutefois pas convaincu qu'une réforme du droit est nécessaire. Pour ce qui est du fardeau de la preuve nécessaire quand on accuse quelqu'un qui est d'avoir une preuve hors de tout doute raisonnable, est-ce qu'on veut changer ça, a-t-il soulevé, rappelant par ailleurs que le droit criminel est de compétence fédérale. La ministre de la Justice du Canada, Jody Wilson-Raybould, n'était pas disponible jeudi pour une entrevue au sujet des attentes du public envers le système de justice à la suite notamment de la vague de dénonciations « Moi aussi ». Dans une décision qualifiée d'exceptionnelle, le gouvernement caquiste a annoncé jeudi qu'il rouvre le parc national du Mont-Tremblant aux motoneigistes. Cette pratique est interdite depuis plusieurs années en vertu de la loi sur les parcs, à moins d'être autorisée par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le cas de Mont-Tremblant n'était pas unique au Québec puisque la pratique de la motoneige n'est plus permise dans les parcs nationaux depuis l'an 2000. Cette décision avait été prise en raison des impacts sur le milieu naturel du dérangement de la faune, de la pollution sonore et de l'incompatibilité avec les activités offertes dans les parcs nationaux. Dans ce contexte, le biologiste Alain Branchaud de la Société pour la nature et les parcs déplore le précédent que le gouvernement risque de créer en ouvrant la porte aux motoneiges dans un premier parc national. Le gouvernement Legault avait un cadeau de Noël à offrir aux municipalités jeudi, une baisse de la facture des services offerts par la Sûreté du Québec en 2019. Le monde municipal se plaignait de devoir, année après année, assumer une facture toujours plus salée pour obtenir la protection policière de la SQ. Pour calmer le jeu, Québec accepte donc de verser 33 millions de dollars aux municipalités et s'engage à ce que l'augmentation globale du coût des services policiers ne dépasse pas 3 % en 2019. En conférence de presse, le monde municipal représenté par l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités jubilait, voyant ses charges financières diminuer, sauf pour dire qu'il apprécierait que cette aide ponctuelle de Québec devienne permanente. À deux jours de l'élection partielle à la mairie de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, la ministre responsable de la métropole Chantal Rouleau et la mairesse Valérie Plante feront une annonce commune vendredi aujourd'hui au sujet de la revitalisation de l'Est de Montréal. Au cabinet de la mairesse, on assure que le moment choisi n'a rien à voir avec le scrutin de dimanche et que la conférence de presse est l'aboutissement d'un travail mené avec la ministre depuis plusieurs semaines. La semaine dernière, la mairesse s'était faite critiquer, dis-je bien, pour avoir fait des annonces dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, parce que c'est écrit ici en acronyme, et Saint-Michel, où des élections partielles auront lieu dimanche. Le parti d'opposition Ensemble Montréal avait d'ailleurs porté plainte auprès du directeur général des élections du Québec. De la cavale pour l'homme le plus recherché de France, l'auteur présumé de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg qui a fait 3 morts et plusieurs blessés, a été abattu par la police jeudi soir. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque dans la foulée. Le duo formé par Michel-Marc Bouchard au livret et Julien Bilodeau à la musique sera de retour à l'Opéra de Montréal en 2023 avec une nouvelle création intitulée « La Reine Garçon ». Cette œuvre constitue la première co-commande entre l'Opéra de Montréal et la Canadian Opera Company de Toronto. Ce nouvel opéra est inspiré de la pièce « Christine, la Reine Garçon » de Michel-Marc Bouchard qui retrace une partie de l'histoire de la Reine Christine de Suède. Cette histoire témoigne de la fondation de la société moderne et de la naissance des grandes idées qui ont formé les principes humanistes de notre vie culturelle, politique et sociale actuelle, a souligné Julien Bilodeau. Carlos Ghosn, incarcéré au Japon pour avoir sous-estimé sa rémunération auprès du fisc nippon, reste PDG de Renault et aucune anomalie n'a été constatée sur ses revenus en France, a annoncé le constructeur automobile à l'issue d'une réunion jeudi de son conseil d'administration. Le CA de Renault a maintenu le dispositif de gouvernance mis en place fin novembre. Il avait alors décidé de maintenir M. Ghosn comme PDG, disant ne pas être en mesure de se prononcer sur les charges pesant contre lui. Il avait provisoirement nommé Thierry Bolloré, directeur général du groupe, pour assurer l'intérim en l'absence de M. Ghosn. Au Japon, Ghosn a, en revanche, été démis de ses fonctions de président des conseils d'administration de Nissan et de Mitsubishi. Reste avec nous en musique. Exactly how you hear it. Is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on? Sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Do a thing.
'cause I'm locked down. Stitched up, feeling the burn. Oh, strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
Stitch Me Up, c'était Herbie Hancock en collaboration avec John Mayer. Merci Hélène de m'avoir permis de jouer cette chanson.
Bien, ça me fait grand plaisir. Merci à vous Mathieu de nous avoir fait entendre cette belle chanson. On se lance des fleurs ce matin.
Ben oui.
Alors allons-y donc avec la une du Journal de Montréal en ce 14 décembre 2018. Une image qui fait... peine à voir, un semi-remorque emboutit 5 véhicules et fait 2 morts, carambolage tragique. Un méga bordel informatique, le projet RENIR coûtera au moins 1 milliard. Retour du baseball, une étude favorable pour Montréal. La patience du commissaire s'effrite, c'est la chronique de Marc Defoy. Elle aurait été battue à mort au Mexique par son copain. La Québécoise qui était portée disparue au Mexique a été battue à mort dans sa chambre d'hôtel par son compagnon, Pierre Bergeron, qui a ensuite dissimulé son corps sur le terrain de golf du complexe hôtelier selon les autorités mexicaines. Ces dernières ont dit avoir découvert un corps qui serait celui de Christine Saint-Onge, une résidente de Laval qui n'est pas revenue comme prévu de son voyage. Les enquêteurs ont trouvé dans une chambre d'hôtel des preuves de violence domestique avec des traces de sang. A déclaré le procureur de l'État de la Basse-Californie du Sud, Daniel De La Rosa, lors d'un point de presse mercredi en fin de journée. D'après l'autopsie réalisée au Mexique, elle est morte d'un traumatisme crânien et d'une lésion de la moelle épinière. Le corps a ensuite été transporté tôt le matin jusqu'au terrain de golf adjacent au complexe hôtelier, où les policiers l'ont découvert dans des branchages et des herbes hautes, rapporte un journaliste local. Sa dépouille a séjourné pendant 5 à 7 jours, affirmé le procureur. Leur enquête n'a toutefois débuté que le 10 décembre à la demande des autorités canadiennes. La défunte doit être rapatriée au Québec avec l'aide de l'ambassade canadienne. Une nouvelle autopsie pourrait être pratiquée. Alors, il s'agit de Christine Saint-Onge, 41 ans. La femme de 41 ans n'avait pas donné de nouvelles depuis le 4 décembre alors qu'elle était avec Bergeron, qu'elle fréquentait depuis 4 mois. L'individu de 52 ans était revenu seul au pays le lendemain, sans effet personnel et avec le billet d'avion de Mme Saint-Onge. Il s'est enlevé la vie à la conception le 6 décembre, jour prévu de leur retour, ce qui a alerté les proches. Une campagne de sociofinancement pour aider les deux garçons de 7 et 11 ans de Christine Saint-Onge a été lancée par sa meilleure amie. Carambolage mortel à Bécancour, le conducteur d'un semi-remorque a causé un violent carambolage ayant fait 2 morts hier sur l'autoroute 55 à Bécancour après avoir percuté de plein fouet une file de véhicules dans un secteur où se déroulaient des travaux. Malgré la bonne visibilité et la chaussée non glissante sur une portion qui était droite, le conducteur du semi-remorque fautif est rentré comme dans un jus de quille dans des véhicules qui roulaient au ralenti en raison des travaux. Ces derniers étaient pourtant annoncés. L'homme de 57 ans de Saint-Zéphérin de Courval, dans le centre du Québec, a embouti 5 véhicules, soit 3 voitures, un pick-up et un autre poids lourd. 2 conducteurs gravement blessés ont été transportés dans des centres hospitaliers où ils sont décédés. Un homme de 67 ans du quartier Pointe-aux-Trembles à Montréal avait été transféré dans la métropole pour traiter ses blessures. Son décès a été constaté plus tard en soirée. L'autre victime est un homme de 41 ans de Bécancour. Est-ce que le conducteur a été distrait? Avait-il vu le ralentissement? S'était-il endormi au volant ou avait-il une conduite dangereuse? Toutes les hypothèses sont étudiées pour déterminer la cause de la collision. Tous les facteurs sont pris en compte, donc dit le porte-parole de la SQ, Daniel Thibodeau. Un autre commerce qui existe depuis plus de 50 ans qui ferme ses portes, cette fois, c'est l'institution montréalaise Chocolat André qui a appartenu à 3 générations de femmes au fil des 78 dernières années, qui fermera ses portes le 31 décembre. L'édifice a été vendu très récemment et c'est dû à une prise de possession qui est très rapide, a expliqué la proprio Stéphanie Saint-Denis. La chocolaterie aura traversé près de 8 décennies d'activité sur l'avenue du Parc dans le Mainland. En 1940, avec un père décédé, une mère malade, Madeleine Déniaud et sa sœur Juliette avaient décidé d'ouvrir leur propre chocolaterie en pleine Deuxième Guerre mondiale. Les clients devaient apporter leur ration de sucre pour préparer les chocolats, souligne Stéphanie Saint-Denis, petite fille d'une des sœurs fondatrices. On aperçoit sur la photo, dans le journal, Catherine Robitaille et Marie-Irène Morier, qui recevront leur 4 % à la fin de l'année. Le fils de l'ancien ministre Gaétan Barrette a écopé hier de 8 mois de prison à domicile pour avoir continué sa route après avoir happé un cycliste alors qu'il rentrait d'une fête où il avait consommé de l'alcool. C'est un acte criminel qui est très grave. Vous aviez consommé de l'alcool. Heureusement, il semble que la victime n'a pas eu de séquelles, a commenté la juge Josée Bélanger hier au palais de justice de Montréal. J'ai de profonds regrets. J'aurais dû prendre mes responsabilités sur le champ, a déclaré l'accusé hier après la lecture de lettres écrites par des proches qui l'encensaient. On a sur la photo Geoffroy Barrette accompagné de son père Gaétan Barrette hier au Palais de justice de Montréal. Ni l'un ni l'autre n'ont souhaité faire de commentaires. Et les usagers de la Plaza Saint-Hubert, qui est présentement en chantier, pourront voir la nouvelle marquise à partir de l'été prochain entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique. Montréal a accordé un contrat de 18 millions de dollars à l'entreprise Eurovia Québec Grand Projet Inc. pour sa fabrication et son installation. La nouvelle marquise sera plus moderne, plus légère et plus claire. L'installation aura donc lieu à l'été 2019 entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique, soit à la fin de l'ensemble des travaux prévus pour cette partie de la plaza. La marquise sera aménagée à l'été 2020 pour le tronçon entre Saint-Zotique et Bellechasse. Melania Trump a gentiment lu le conte Oliver the Ornament hier à des enfants malades de la région de Washington. Une fois l'histoire terminée, la première dame des États-Unis en a profité pour rencontrer les petits patients du Children's National Hospital. L'ancien mannequin a donc perpétué la tradition commencée par l'ex-première dame américaine Bess Truman il y a plus de 60 ans.
Je suis un gars ben ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu? Si vous saviez comme je me sens vieux. Je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Quand je serai fini, puis dans la rue, mon grand public, je l'aurai. Je me fous pas mal des critiques. Ce sont des ratés sympathiques. Je suis pas un clown psychédélique. Ma vie à moi, c'est la musique. Thank you.
pour qu'on m'entende. Quand je crie, c'est pour me défendre. J'aimerais bien me faire comprendre. Je voudrais faire le tour de la terre avant de mourir et qu'on m'enterre. Voir de quoi le reste du monde a l'air. Autour de moi, il y a la guerre. Je voudrais qu'on soit tous des frères. C'est pour ça qu'on est sur la terre. J'ai pas un chanteur populaire.
Charlebois et sa chanson, merveilleuse chanson ordinaire.
Eh oui, Charlebois qui est toujours dans le coup, hein, des années et des années après cette chanson, même qu'en 2019, il aura 75 ans et nous offrira tout un spectacle Charlebois, pas en cinémascope, mais en charleboiscope, un titre semblable à ça. Il va faire une tournée à travers le Québec dans plusieurs grandes salles, dont Wilfrid Pelletier à la Place des Arts. Ça devrait être assez extraordinaire, une espèce de son et lumière, mais quand c'est Charlebois qui s'en occupe, ça devrait être inoubliable, mémorable même. Alors allons-y avec quelques nouvelles du Canada. Une patinoire extérieure accessible aux athlètes handicapés ouvre à Winnipeg. La première patinoire extérieure du Manitoba entièrement accessible aux personnes ayant un handicap physique a ouvert ses portes mardi au centre communautaire de Dakota dans le quartier Saint-Vital de Winnipeg. La patinoire réglementaire, qui mesure 85 pieds sur 200, a des caractéristiques particulières comme des barres élévatrices, des portes accessibles aux aires de repos, des zones de réchauffement qui permettent aux joueurs de hockey sur luge d'accéder facilement à la glace. Cette patinoire est vraiment la meilleure que j'ai vue dans tout le Canada. Pas seulement au Manitoba, a déclaré le paralympien de hockey sur luge Greg Westlake, présent à l'ouverture de la patinoire. Le projet de 680 000 $ a démarré au cours de l'été 2018. Il a été financé par la ville de Winnipeg, la province, le fédéral, la Fondation Canadian Tire et plusieurs autres donateurs. La patinoire a été conçue en consultation avec des joueurs de sledge hockey Manitoba tels que Sean Gilmore, qui disent que des installations accessibles donnent aux athlètes handicapés leur indépendance. Maintenant, les usagers peuvent venir à la patinoire seuls, déclare Sean Gilmore. Ils peuvent patiner de manière indépendante, ils n'ont pas à s'inquiéter de demander de l'aide pour la patinoire. Le maire Brian Bowman a déclaré que le projet contribue à faire de Winnipeg un endroit accessible à tous les enfants de tous âges. Je suis sûr que nous pouvons et devons faire beaucoup plus pour rendre une ville plus accessible aux personnes handicapées. Nous devrions être attentifs et réceptifs aux changements que nous pouvons faire. Jeux de la francophonie 2021, le comité organisateur estime avoir bien fait son travail. C'est un article dans Acadie Nouvelle de Simon Delattre. Au moment de soumettre sa candidature en 2015, le Nouveau-Brunswick annonçait des coûts maîtrisés et un budget de 17 millions de dollars. Trois ans plus tard, le comité organisateur présente une facture de 130 millions de dollars, presque huit fois supérieure aux prévisions initiales. Les municipalités de Moncton et Dieppe refusent d'engager des fonds supplémentaires et le gouvernement Higgs a fait savoir que la province ne peut simplement pas se permettre de telles dépenses. Face au tollé suscité par l'escalade des coûts, le comité organisateur a décidé de répondre aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse. C'était lundi soir. En 2015, Éric Mathieu Doucette, président du comité organisateur, et Éric Larocque, directeur général, participaient à titre de bénévole au comité de candidature, composé essentiellement de fonctionnaires provinciaux. Le rôle des bénévoles, explique Éric Mathieu Doucette, n'était pas d'évaluer les coûts. Il se limitait à consulter les municipalités ainsi que les associations sportives de la région. Il renvoie la balle du côté du gouvernement Galant. Le centre commercial Cornwall à Regina et le centre de ressources sur l'autisme de la ville ont organisé dimanche des rencontres sans distraction sensorielle entre le Père Noël et des enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. Les familles étaient invitées à rencontrer le Père Noël et à prendre des photos avec lui avant l'ouverture du centre commercial au public. Ainsi, elles pouvaient éviter les foules et la musique des fêtes diffusées habituellement à ce moment de l'année. Des responsables du Centre sur l'autisme ont offert une formation aux célèbres personnages à la barbe blanche et aux photographes afin que l'expérience soit la plus agréable possible pour les enfants et leurs familles. L'événement Silent Santa était tout ce dont Tyler, 4 ans, est atteint, qui vit avec l'autisme ou un enfant autiste, avait besoin. Sa mère, Amanda Evans, explique que la traditionnelle prise de photo avec le Père Noël est une épreuve stressante pour lui. Il ne comprend pas qu'il faut simplement s'asseoir et attendre qu'on prenne la photo, dit-elle. Madame Evans a aimé que le Père Noël consacre 10 minutes complètes à sa famille afin qu'elle ne se sente pas pressée. Selon Amanda Evans, les photos représentent des souvenirs pour toute la vie. Il est important que l'expérience au centre commercial soit plaisante. D'autre part, elle estime que l'événement peut aider à sensibiliser le public à l'autisme et aux difficultés sensorielles. La directrice du Centre de ressources sur l'autisme, Kelly White, confirme que l'événement a été un succès auprès des familles. D'ailleurs, la demande pour rendre visite au Père Noël silencieux a été si grande que tous les créneaux de 10 minutes ont été remplis. Certaines familles ont dû être placées sur une liste d'attente. Silent Santa. C'est inspirant, ça. Trois prix ont été décernés lundi à des organismes et à des personnes qui font la promotion du respect des droits de la personne et de l'égalité pour tous au Manitoba. Les prix attribués chaque année proviennent de la Commission des droits de la personne du Manitoba en partenariat avec la Commission canadienne des droits de la personne et l'Association manitobaine des droits et libertés. Le Centre juridique d'intérêt public est l'un de ses lauréats. Selon Catherine Dillé, avocate du Centre, c'est un honneur pour toute l'équipe et l'ensemble des partenaires. Le Centre juridique d'intérêt public travaille en étroite collaboration avec des organismes communautaires variés qui lui signalent les problèmes de droit au quotidien, pour lesquels il pourrait y avoir une solution juridique, explique Catherine. En 35 ans d'existence, le Centre a aidé les personnes ayant des déficiences intellectuelles à retourner vivre dans leur communauté, relate-t-elle. Le Centre a pu bâtir avec ses communautés une vision pour un Manitoba accessible pour tous, avec la loi sur l'accessibilité pour les Manitobains. Elle précise aussi que plusieurs contestations judiciaires qui ont commencé dans les bureaux du centre juridique ont permis de changer certaines lois, comme la loi sur les personnes vulnérables et la loi sur la santé mentale. Malgré ces succès, Catherine estime qu'il y a encore du chemin à faire lorsqu'on parle des droits de la personne au Manitoba. Elle parle notamment de l'admissibilité à l'aide à la vie en société pour des personnes ayant une déficience intellectuelle qui n'est pas encore accessible à tous. Selon elle, il y a un manque de programmes et d'appui pour les adultes ayant un handicap physique.
Mmh.
Et dans le courrier de la Nouvelle-Écosse, Marie-Claude Rioux reçoit le prix de l'Ordre des francophones d'Amérique. Lors de la remise des insignes de l'Ordre des francophones d'Amérique et du prix du 3 juillet 1608, c'est le nom du prix, Marie-Claude Rioux a eu l'honneur de recevoir cette décoration. Au nombre des récipiendaires de 2018, signalons les personnes suivantes des autres continents. Joseph Quaterco, des Amériques. Aussi Thomas Spear de l'Acadie, Marie-Claude Rioux de l'Ontario, France Martineau de l'Ouest canadien, Raymond Poirier du Québec, Jim Corcoran et Hélène Cajolet, la gagnère.
J'ai la tête en gigue et le cœur en ce temps. Me voilà enfin au large. Radon chaviré, la marée haute, perdu dans ton regard. Temps perdu à craindre l'étreinte, à éteindre la moindre flamme. Frontières disparaissent par tes mains, les mots d'amour deviennent sereins. Renouveau et découverte, j'apprivoise ta tendresse, je m'enivre de ta douceur. J'ai la tête en gigue et le cœur en ce temps. Me voilà presque au rivage. Temps perdu à craindre l'étreinte, à étouffer la moindre chaleur. Frontières disparaissent par tes mains. Mon amour devient si simple.
Bertrand Gosselin, la chanson « J'ai la tête en gigue ».
Jim Corcoran, qui fait partie des récipiendaires de l'Ordre des francophones d'Amérique et du prix du 3 juillet 1608. Et je vous parlais de Marie-Claude Rioux, qui reçoit ce prix également. Qui est-elle, si vous ne la connaissez pas? Elle est originaire de Chipagan, au Nouveau-Brunswick. Marie-Claude Rioux réside maintenant en Nouvelle-Écosse depuis plus de 30 ans. Linguiste de formation et s'est investie dans le développement de la communauté acadienne de sa province et de l'Acadie dans son ensemble. Elle a été directrice générale de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, directrice générale de l'Association des juristes d'expression française et directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Dans sa carrière, Mme Rioux a géré des dossiers lourds tels que la cause Doucet-Boudreau, l'amélioration à l'accès à la justice en français, le mouvement contre l'abolition des circonscriptions acadiennes protégées en Nouvelle-Écosse. Elle s'est également engagée dans de nombreuses causes de bénévolat et elle a reçu plusieurs distinctions bien méritées. Et en acceptant cet honneur, Marie-Claude Rioux a dit qu'en 2004, elle avait accompagné son père, Jean-Guy Rioux, qui recevait lui-même cet insigne d'honneur. Elle a également remercié son mari, Rory, et son fils, Jean-Philippe, pour leur appui indéfectible. Elle a exprimé sa reconnaissance à Louise Imbeault et au sénateur René Cormier qui avait présenté sa candidature au Conseil supérieur de la langue française. L'insigne de l'Ordre des francophones d'Amérique est une décoration accordée à des individus qui se sont distingués pendant leur carrière dans l'épanouissement de la langue française en Amérique. Ce prix existe depuis 1978 et les gagnants de ce prix, qui sont originaires de la Nouvelle-Écosse, incluent le père Anselme Chiasson, Léger Comeau, Phil Comeau, Edith Comeau-Toft et Maurice Leblanc. Le comédien et metteur en scène Philippe Lambert succède à Denis Bernard à titre de directeur artistique et général du Théâtre de la Manufacture et directeur artistique de son espace théâtral La Licorne, situé à Montréal. Comme mes prédécesseurs, j'ai très à cœur de poursuivre le développement de notre dramaturgie tout en faisant découvrir de nouvelles écritures d'ici et d'ailleurs qui seront toujours secouées et faire s'interroger le public, a déclaré Philippe Lambert dans un communiqué transmis hier. Denis Bernard cède ainsi les rênes de la Manufacture après 10 années à sa tête. Pendant cette décennie, il a notamment supervisé la reconstruction de la Licorne et la mise sur pied d'une équipe d'auteurs en résidence, la Dizaine de la Manufacture. Denis Côté sera de retour en janvier au Festival international du film de Berlin avec son nouveau film « Répertoire des villes disparues ». Retenu en compétition officielle, rompu aux honneurs de la Berlinale, le cinéaste québécois y fut déjà convié pour « Bestiaire »,« Que ta joie demeure », ainsi que pour « Vic et Flo ont vu un ours », ce dernier également en compétition officielle. Basé sur un roman de Laurence Olivier, « Répertoire des villes disparues » compte les destins croisés des habitants d'un village isolé en proie à d'étranges manifestations. Doté d'un budget de 2,2 millions de dollars, une rareté pour le doué cinéaste habitué par la force des choses à plus de frugalité, ce plus récent opus fut tourné au mois de mars dans la MRC des Jardins de Napierville et met entre autres en vedette José Deschênes, Robert Naylor, Jean-Michel Onctil et Diane Lavallée. Une sortie québécoise est prévue le 15 février. Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, une histoire d'amour entre deux hommes dans les années 1990 sur fond d'épidémie de sida, a remporté mercredi le prix Louis Deluc, considéré comme le Goncourt du cinéma. « Ça me touche énormément », a réagi le réalisateur de 48 ans à l'annonce de son prix lors d'une cérémonie au Fouquet's à Paris. S'inspirant de sa jeunesse, le film réunit à l'écran Pierre de la Donchamp, Vincent Lacoste et Denis Podalydès. Révélé dans « L'inconnu du lac », le premier y incarne Jacques, un écrivain parisien homosexuel et père d'un jeune garçon, qui fait la rencontre d'Arthur, un étudiant avec qui il entame une liaison. Ils vont s'aimer le temps d'un été alors que Jacques, malade du sida, sait qu'il n'a plus beaucoup de temps devant lui. 8 autres films étaient en lice pour ce prix, parmi lesquels les Frères Sisters de Jacques Audiard, récompensés à la Mostra de Venise, Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret et la comédie à succès « Le Grand Bain » de Gilles Lellouche. Thank you. La chronique de Sophie Durocher, District 31, la police de la vérité. Et il y a plusieurs mots écrits en lettres majuscules dans sa chronique. Dans District 31, une fausse policière dit à une comédienne déguisée en policière à propos d'un personnage qui fait semblant d'avoir le VIH et qui prétend avoir infecté une dizaine de partenaires. C'est une tueuse en série. Après la diffusion de la série de fiction, un vrai organisme de défense des vraies personnes ayant vraiment le VIH se plaint. Vous n'avez pas représenté la vraie réalité. Non, en effet. Une série télé, c'est une histoire sortie de l'imagination d'un auteur qui invente des mots que ses personnages pourraient se dire s'ils existaient. Ah oui, et le sang et les armes dans District 31, ce n'est pas vrai non plus. Vous l'avez vu dans les nouvelles, un organisme de lutte contre le sida déplore que dans District 31, les personnes séropositives ont été présentées comme un danger pour la santé publique. Non, avec une multitude de points d'exclamation. La série ne montre pas toutes les personnes séropositives, juste une, qui a choisi pour se venger d'infecter le plus de partenaires possible. Si les organismes regroupements ou lobbies finissent par avoir gain de cause, on va se retrouver avec des comités qui relieront les scénarios et souligneront avec un gros crayon rouge tout ce qui leur déplaît, les offenses, les blesses, leur fait de la peine. C'est ça qu'on veut? Hier, à mon émission à Cube, j'ai interviewé Régent Thomas de la clinique L'Actuelle. Il a admis qu'il n'avait pas vu les épisodes en question de District 31, mais il avait trouvé choquant que la policière utilise l'expression « tueuse en série » pour désigner la femme séropositive. Aujourd'hui, avec la trithérapie, on ne meurt plus du VIH, m'a-t-il dit. Mais comment vous appelez ça, vous, quelqu'un qui se sait porteur du VIH, qui ne se soigne pas et qui couche volontairement avec des partenaires pour se venger de celui qui lui a transmis le virus? Luc Dionne va-t-il recevoir des médecins, avocats, notaires, policiers, journalistes, garagistes, plombiers et entrepreneurs de pompes funèbres, la liste d'expressions qui sont acceptables aux yeux de leur profession? Dans 2018, revue et corrigée, l'excellente et hilarante revue de fin d'année du Rideau vert, un sketch m'a particulièrement fait rire. On y parle de la présence de coyotes dans certains quartiers de Montréal. Le sketch est interrompu par une voix enregistrée qui dit en gros « Nous tenons à vous informer que le coyote est joué par un comédien. Les coyotes ont été consultés et ils sont d'accord. » Les auteurs doivent tenir compte des accusations d'appropriation culturelle. Un blanc ne peut pas jouer un autochtone. Il y a aussi l'homophobie, la transphobie, la queerphobie, la grossophobie, etc. Et le manque de diversité. Si la communauté X représente un pourcentage Y de la population, les séries doivent présenter un pourcentage Y de personnages X, même si aucun comédien de la communauté X n'est sorti des écoles de théâtre au cours des 8 dernières années. Une œuvre de fiction, ce n'est pas un message d'intérêt public du gouvernement. Peut-on, s'il vous plaît, laisser les vrais créateurs créer de faux personnages sans que la police de la vérité joue à la police? Rectificatif dans la presse dans un article intitulé « Netflix et Québec Cinéma créent un programme de mentors » publié dans notre numéro d'hier, nous avons écrit que le premier laboratoire aurait lieu en février 2019. Ce sera plutôt en février 2020. Nous avons aussi écrit que Netflix a une enveloppe de 500 millions de dollars en acquisition de production canadienne en échange d'une exemption de perception des taxes de gouvernement. En fait, Netflix perçoit les taxes là où les lois le requièrent, D'ailleurs, elle percevra la taxe de vente du Québec TVQ dès janvier 2019. Nos excuses. Et pour terminer, par le magazine Rolling Stone, le Rock'n'Roll Hall of Fame aux États-Unis a annoncé ses intronisations pour l'année 2019. Ce sont les groupes britanniques Radiohead et The Cure, ainsi que Janet Jackson, Stevie Nicks, membre du groupe Fleetwood Mac, mais célébré ici en solo, Roxy Music, Def Leppard et The Zombies. La cérémonie officielle sera diffusée sur HBO le 29 mars. Les artistes qui peuvent être admissibles à ce temple de la renommée du rock doivent attendre 25 ans après la sortie de leur premier album pour y entrer. Parmi les favoris pour 2019, on comptait notamment Kraftwerk et Rage Against the Machine, qui devront patienter encore un peu avant cette consécration.
I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in my dreams. Christmas, you can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light Christmas, if only in
qui rentre dans la catégorie de chansons qui ne durent pas assez longtemps. I'll Be Home for Christmas, Michael Bublé.
C'est vrai, hein? Il a une voix magnifique. On en parlait, Mathieu et moi, mais on l'a écouté surtout. Les coups de cœur de Christian Bégin, c'est dans la chronique Sortir du Journal de Montréal. Curieux Bégin, ça oui. L'animateur et comédien Christian Bégin est un vrai passionné de gastronomie. Véritable épicurien et amoureux de la restauration montréalaise, il visite régulièrement les bonnes tables de la ville. De plus, cette année, comme porte-parole du Salon des métiers d'art, il invite le public à encourager les artisans locaux d'ici. Le Montréalais d'origine nous présente ses adresses coup de cœur qui donnent indéniablement l'eau à la bouche. Alors prenez des notes si ça vous intéresse. Le restaurant préféré, c'est Anne Lovely Étienne qui l'a rencontré. Le premier, je te dirais, pour leur approvisionnement locaux, pour leurs produits et par fidélité, je nommerai La Récolte sur la rue Bélanger. Ce sont devenus des amis. Le produit est au cœur de tout ce qu'ils font. C'est magnifiquement exécuté. Il y a une carte de vin soucieuse, majoritairement composée de vins nature. Il y a aussi mon nouveau coup de cœur de cette année qui s'appelle Alma, situé sur la rue Lajoie. C'est un nouveau resto-bar à vin dans Outremont. Ce sont aussi les mêmes propriétaires qui possèdent le restaurant Farine. Je suis tombée en amour avec l'endroit car la bouffe est d'inspiration d'Amérique du Sud et d'Italie. C'est tout petit, l'ambiance est extraordinaire et le service est attentionné. C'est le genre de restauration que j'aime. L'endroit où prendre un verre, le Rouge-Gorge sous Mont-Royal, je suis là tout le temps, dit Christian Bégin. C'est gênant. Je pourrais même y avoir des parts. Je pense aussi que je paye une partie de leur hypothèque. Je suis un indécrottable du plateau et un bar à vin manquait dans le quartier. Alors, il adore le Rouge-Gorge. Il y a aussi le Pullman qui est un classique sur l'avenue du Parc. L'activité préférée? Je vais au restaurant. Je passerai ma vie dans les restaurants. J'aime les gens de la restauration, je trouve ça triste de cuisiner seul. Alors, lorsque je suis à Montréal, je passe une grande partie de mon temps libre au restaurant parce qu'on sait qu'il a aussi une maison à Kamouraska. Sinon, je suis un cinéphile. Il faut découvrir la nouvelle salle du cinéma moderne sur Saint-Laurent. C'est un nouveau cinéma indépendant avec un petit café. Il faut acheter ses billets à l'avance car c'est tout petit. C'est audacieux en ce moment d'ouvrir un cinéma, mais on propose une programmation choisie minutieusement et accessible. Il y a aussi le cinéma Beaubien que je fréquente beaucoup. Je suis aussi un amateur de musées. Je suis abonné au Musée d'art contemporain et des Beaux-Arts. L'exposition Manifesto au MAC en ce moment est incroyable. Une adresse secrète à découvrir, qui sera plus secrète dans quelques secondes. Deux adresses. La première est le café Brooklyn Montréal sur Saint-Viateur, qui est un tout petit café. Il y a quelque chose de très new-yorkais dans l'ambiance. L'offre de bouffe est incroyable et ils vendent des meubles. Tu peux donc acheter les meubles qui remplissent l'espace. Ce sont tous des meubles d'inspiration des années 60 et 70. La deuxième adresse est Pascal Le Boucher sur la rue Saint-Denis. C'est un boucher éthique, c'est-à-dire que si tu veux une bavette, il se peut qu'il n'y en ait pas. Pour lui, on consomme ce qui reste. Il choisit tous ses producteurs tout bio avec des élevages éthiques et en petite production. Le problème n'est pas de manger de la viande, c'est de la consommer en quantité industrielle, comme on le fait. Et le plus beau souvenir de la métropole, je viens de Pointe-aux-Trembles dans l'est de Montréal et je me souviens de la première fois que je suis venue seule en ville. C'était en 1976. J'avais 13 ans. Et j'avais acheté des billets pour aller voir Michel Fugain et le Big Bazaar à la Place des Arts. C'est la première fois que je sortais seule à Montréal. Je débarquais dans la grande ville. Il n'y avait pas de métro à l'époque. C'est un souvenir incroyable car ce spectacle a été un tournant pour moi. Je savais que je voulais être sur une scène. Il n'y avait pas de métro à l'époque, mais le métro a ouvert en 66. Et il parle ici de 76, peut-être une station de métro. Oui, c'est ça, dans le coin où il allait. Merci, Mathieu. quelques suggestions sorties. C'est toujours dans la chronique sortir du Journal de Montréal, cette fois sous la plume de Daniel Choquette, collaboration spéciale La Foirée montréalaise. Jusqu'au 21 décembre, donc vendredi prochain, au Théâtre de la Licorne, situé avenue Papineau, on peut assister à La Foirée montréalaise, un spectacle party qui, cette année, honore le plateau Mont-Royal par des histoires, des chansons, des partages de souvenirs. Du mardi au jeudi à 19h, le vendredi à 20h, le samedi à 16h, c'est à la Licorne. J'ai entendu de très bonnes critiques au sujet de la Foirée montréalaise édition de cette année. Aussi, le Père Noël et le sapin bavard. Jusqu'au 23 décembre, le Père Noël qui a le don d'ubiquité, toujours de la difficulté avec ce mot-là. Est-ce qu'on dit ubiquité ou ubiquité? Hein, je pense que c'est la deuxième option. Sera donc dans plusieurs centres commerciaux. Au Complexe des Jardins, on le trouvera du lundi au vendredi de 10h à 20h, les samedis et dimanches de 10h à 17h et lundi 24 de 10h à 15h. De plus, la pièce Le sapin bavard est présentée aux enfants samedi et dimanche à 11h, jeudi 20 et vendredi 21 à 14h, samedi 22 et dimanche 23 à 11h et 14h, ainsi que le lundi 24 décembre à 11h et 13h. Cabaret ardent. Si vous êtes amateur de feu et de cirque, sachez que 20 artistes de feu présentent un spectacle bénéfice tout feu tout flamme à la grande salle de l'usine C. C'est un cabaret et l'usine C est située au 1345 avenue Lalonde. C'est demain soir à compter de 20h les billets. Le prix des billets varie entre 15 et 35 $. Les Coralies, jusqu'au 23 décembre, les samedis et les dimanches, à 13h30 et à 15h, on se laisse bercer pour les chants de Noël, par les chants de Noël, à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Ce samedi, Neuve Renaissance, dimanche, les petites voix du plateau. Samedi 22h, l'ensemble vocal Alternative. Dimanche 23, Jazz Pop et Talons Hauts. Mercredi, le 23 à 12h15, si vous êtes dans le coin, vous pourrez entendre l'organiste Benoît Marino. Tarif à votre discrétion, mais les dons sont aidants. Pour tous les détails, vous faites marguerite-bourgeois.org. Et Tom Sawyer, en fin de semaine, le groupe théâtral Advienne que pourra présente la pièce Tom Sawyer aux jeunes. C'est aujourd'hui à 19h et demain à 16h à la Maison de la culture Mercier. Samedi, avant la pièce, on s'amusera en tartrage. Oui, c'est très amusant, surtout pour... celui qui le fait plutôt que celui qui reçoit la tarte, photomaton, costumé, etc. accèsculture.com pour tous les détails. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, c'est déjà tout. Mathieu Tessier, vous nous quittez pour quelques semaines. Joyeux Noël et bonne année, bon voyage, profitez-en bien. On se retrouve en janvier 2019. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès lundi. Bon week-end à tous.